La lettre est un thème récurrent dans tous les films de Truffaut, problématique qui n'a, à ma connaissance, fait l'objet d'aucune étude systématique, même si des essais remarquables, par exemple ceux de Jean Collet, qui était prof à Caen, je crois, celui d'Anne Gillin ou celui de Carole Lebert, en ont parlé, mais de façon partielle. Mon propos d'aujourd'hui fait suite à une première étude, on l'a signalé, les lettres de crédit dans l'histoire d'Adèle H., 1975, et s'inscrit dans un essai en cours. Je ne parlerai pas ou très peu des deux Anglaises et le continent, film qui nécessiterait à lui seul une conférence, tant la lettre, souvent exhibée, y est traitée de façon intensive et complexe. J'ai préféré aborder des films dans lesquels la lettre a un rôle plus discret, mais tout aussi important dans la mesure où l'art de Truffaut est allusif et structuré par une rhétorique filmique dont je vais analyser certaines figures, métaphores et métonymies, notamment. Par le style de l'auteur, Truffaut, le sens manifeste de l'intrigue est ainsi enrichi par un supplément de sens symbolique, produit par divers détours propres à la représentation filmique, images et sons, dont je vais donner quelques exemples qui nous incitent à repenser la spécificité de la représentation cinématographique. Pour mesurer les enjeux de la lettre dans les films de Truffaut, il convient, je l'ai indiqué, de prendre en compte sa dimension métaphorique et métonymique particulière qui lui permet de dépasser les limites du simple thème. La lettre n'est en effet pas simplement un support neutre de communication. Truffaut la problématise, par exemple dans Histoire d'Adèle H, en l'articulant à l'écriture autobiographique. Alors, Histoire d'Adèle H, c'est l'histoire de la fille de Victor Hugo. La lettre à l'écriture autobiographique, à celle de la fiction ou du journal intime, de telle sorte que les frontières habituelles entre ces genres d'écrits est questionnée. C'est-à-dire, elle écrit une lettre, elle écrit des lettres, mais elle transforme sa vie en une espèce de roman qui n'a aucun rapport avec la réalité. Qu'est-ce qu'une lettre? Si celle-ci décrit une existence qui est structurée non par la réalité, par le référent, mais par le fantasme. Puisque Adèle H. signe Madame Pinson, alors qu'Adèle Hugo n'est pas mariée au lieutenant Pinson et ne le saura jamais. On croit habituellement à ce qui est écrit dans une lettre. Mais celle-ci peut être productrice de fiction. Dans Adèle H, c'est vraiment ça. La croyance en ce que nous raconte le film, comment expliquer autrement l'émotion des spectateurs qui s'identifient au personnage et pleurent, par exemple, est comparable à la croyance que nous avons à ce que raconte une lettre, genre d'écrit qui est lié à la vérité ou à la réalité ou au référent. Les films que je vais solliciter mettent en scène non seulement l'écriture, mais aussi la lecture de la lettre, de façon manifeste dans Jules et Jim, 62, mais aussi de façon plus discrète dans La peau douce, 64, et dans L'homme qui aimait les femmes, 77. La forme filmique permet à Truffaut d'amplifier les paradoxes que celui-ci met en scène quant aux personnages qui écrivent et qui lisent une lettre, dont l'adresse est marquée par l'ambiguïté, puisque, par exemple, dans Jules et Jim, la confidentialité est brisée par une lecture en commun d'une lettre signée par l'amant ou la maîtresse d'un personnage déjà en couple. Et donc la personne qui reçoit la lettre de l'amant ou de la maîtresse lit la lettre en compagnie de son compagnon officiel ou de sa compagne officielle. Donc il y a un paradoxe. Normalement, quand vous recevez une lettre d'un amant ou d'une maîtresse, vous lisez ça en cachette. Catherine lit ainsi, en présence de son mari Jules, la lettre de son amant Jim. Donc c'est la question du destinataire qui est dédoublée. Chaque film de Truffaut donne de la lettre une représentation particulière où tous les éléments constitutifs de la correspondance, le signataire de la lettre, le message et son rapport à la réalité, le destinataire, la lecture, mais aussi le parcours postal de la lettre sont mis en question ou sont l'objet d'une transformation caractéristique de l'imaginaire et du style de Truffaut. Ce à quoi d'ordinaire on ne prête pas attention devient un étrange objet de représentation. Ainsi, par exemple, dans Baiser volé, 68, l'envoi d'un pneumatique dont le spectateur montre le parcours. Alors, le pneumatique, maintenant, ça n'existait pas. Hein, c'était des tuyaux. Et par air comprimé, on envoyait une lettre dans un petit projectile, en quelque sorte, et ça traversait Paris. Hein. On voit ça dans le Baiser volé. Je dis ça pour la jeune génération. beaucoup plus tard, dans La femme d'à côté, lorsque Truffaut tient à montrer les détours que prend un jeune facteur pour trouver la destinatrice de la lettre, à savoir Madame Jouve, la directrice du tennis, qu'il est chargé d'acheminer. Ce que je veux dire par là, dans cette petite référence filmique, c'est que pourquoi Truffaut fait un plan séquence où on voit un facteur ? Et ça dure un certain temps. Et il ne va pas en ligne droite. Donc je m'interroge sur tout ce qui est un tout petit peu paradoxal, en sachant que tout a un sens et que le spectateur doit essayer de reconstruire le sens à partir de divers indices dispersés dans le film. Dans la mesure où on peut étendre la notion de lettre à celle de message écrit, on doit se souvenir aussi d'un autre plan-séquence similaire dans lequel Adèle transmet un mot destiné à son amant volage, le lieutenant Pinson, lors d'une soirée où elle n'est pas invitée. Le silence, et c'est important, de ces séquences centrées sur le transport de la lettre par un facteur ou un personnage qui en tient lieu amplifie l'aspect étrange de ces représentations auxquelles la majorité des films ne nous a pas habitués. Quel film peut s'intéresser à un facteur ou à un personnage qui en tient lieu ? De quoi ces séquences muettes, au-delà de leur fonction narrative, sont-elles la métaphore ? N'est-ce pas une manière d'indiquer au spectateur que la lettre n'est pas simplement une lettre et qu'elle a une valeur symbolique en tous ses constituants, signataire, destinataire, ce dont j'ai parlé tout à l'heure ? Les quelques exemples que j'ai sollicités indiquent en quoi l'apparition de la lettre sur l'écran doit être perçue à la fois de manière réaliste, en tant que participant à l'histoire dans laquelle le spectateur est pris, mais aussi de façon symbolique, d'autres choses dont la figure, plus ou moins complète, n'apparaît qu'après coup. Par cette double lecture des signes visuels et sonores, le spectateur peut percevoir, c'est-à-dire aussi construire, un ensemble signifiant qui enrichit la signification de l'intrigue et des événements, la seule qui peut être résumable. De simple support neutre de la communication écrite, la lettre devient ainsi un vecteur de signification symbolique. Nous chercherons donc à interroger pour nos trois films de quoi la lettre peut-elle être l'enjeu quant à notre représentation du sujet. Hein. Le sujet devenant problématique, puisque quand il est destinataire, parfois il partage cette fonction avec quelqu'un d'autre, ou quand il signe sa lettre, il est lui-même pris par une division, une contradiction interne. Donc le premier film que j'évoquerai, c'est Jules et Jim, 62, et j'ai un titre pour cette partie, c'est « La lettre, le déchet et le temps ». Donc, comme vous ne connaissez peut-être pas l'intrigue, je résume en 5 lignes. Hein. Deux amis très proches, l'un français, Jim, l'autre allemand, Jules, partagent les mêmes goûts artistiques et littéraires, mais l'apparition d'une femme, Catherine, produit une situation ambiguë, chacun étant séduit par elle. Catherine, juste avant la Première Guerre mondiale, épouse Jules. À la fin de la guerre, l'échec de son mariage provoque une relation entre elle et Jim, le français. Mais paradoxalement, celle-ci est acceptée par Jules. La notion de couple est ainsi transformée par ce trio. À la fin, Catherine précipite sa voiture dans un fleuve et meurt avec Jim à son bord. C'est une sorte de suicide à deux. La lettre, le déchet, le feu. Avant-guerre, lorsque Catherine, alors maîtresse de Jules, se prépare à partir en voyage avec ses deux amis, Jim vient la chercher et l'aide à finir ses bagages. Catherine décide de brûler des vieilles lettres d'amour, je cite, « pleines de mensonges ». Or, détail étrange, ces lettres sont chiffonnées, sont déposées non pas dans une poubelle, mais dans un endroit plus incongru, puisqu'il s'agit d'un pot de chambre. Alors, je vais peut-être essayer de... J'ai peur que ça soit un petit peu long.
Tu m'as dit « je t'aime », je t'ai dit « attends ». J'allais dire « prends-moi », tu m'as dit « va-t'en ».
Cette phrase, c'est intéressant, je vais la solliciter après. Hein. C'est une asynchronie du désir entre l'homme et la femme. Voilà.
Bonjour, Catherine.
Bonjour, je suis presque prête, j'ai plus que ma robe à passer. Chapeau, je mets sur
le... On va prendre sa bicyclette.
Oui.
Donc, lettre chiffonnée dans un pot de chambre, hein, ce qui est un peu étrange.
La valise aussi?
Je brûlais des mensonges. Donnez-moi du feu. Martine. Oh mon Dieu.
Donc il y a des plans sur la flamme qu'on va retrouver beaucoup plus tard. Voilà. Donc en partant du principe que rien n'est insignifiant dans une œuvre digne de ce nom, qu'elle soit cinématographique ou littéraire, le spectateur doit se demander pourquoi Truffaut choisit ce réceptacle insolite plutôt que le lavabo ou l'acte de déchirer les lettres et les mettre à la poubelle. Catherine décide de les brûler, mais sa robe de nuit prend feu. La scène multiplie les plans et amplifie ainsi le suspense et l'angoisse de la situation. Mais Jim la sauve d'une mort atroce et dès lors une intimité physique est engendrée qui aura des suites. Le rythme rapide du montage et l'incendie de la robe ont transformé cet acte presque anodin, brûler des lettres, en une scène tragique faisant alterner le visage angoissé de Catherine à des gros plans de flammes dans une séquence à nouveau presque muette. Ce qui donne d'autant plus de force à l'image, hein, et au gros plan. Par cette mise en scène, le spectateur est incité à chercher une signification symbolique sans que celle-ci soit pourtant indispensable, tout comme chez Hitchcock. C'est à ce niveau signifiant supplémentaire qui manque aux critiques qui ont sous-estimé l'art de Truffaut comme d'autres avant eux l'avaient fait pour Renoir ou Hitchcock. La lettre qui est ici traitée par la métonymie du pot de chambre comme un excrément se révèle aussi manifester, ou un déchet plutôt, une ultime fois la puissance de destruction de la passion amoureuse. Celle-ci est représentée à dessein par une métaphore usée, le feu en tant que symbole de l'amour, mais ici prise au pied de la lettre, si je puis dire, comme dans la rhétorique du rêve telle que l'analyse Freud, qui donne pour exemple de somatisation métaphorique inconsciente un cas de paralysie hystérique provoquée par quelqu'un qui a fait un faux pas. Hein, une personne a fait un faux pas, c'est-à-dire une femme a une histoire cachée, une histoire d'amour cachée, et dans son langage, c'est faire un faux pas, et comme par hasard, après, elle devient paralysée. Mais d'un point de vue purement psychologique. Ou une autre analysante de Freud qui devient aveugle pour avoir vu une scène sexuelle qui est interdite. Et alors l'aveuglement, on va le retrouver, que ça soit dans les deux anglaises ou chez Catherine, sans qu'elle soit pour autant aveugle, mais il y a un problème avec les yeux. Parce qu'il y a quelque chose qu'elles ne veulent pas voir sur leur propre désir. Plusieurs films de Truffaut sollicitent en partie ironiquement le foyer d'une cheminée allumée comme décor d'une scène d'amour, afin d'éviter de filmer les corps nus. Le feu est à la fois la métaphore du désir et aussi une manière pudique de détourner le regard de la scène érotique. Donc vous avez des scènes avec un feu, bon c'est un cliché, mais Truffaut en est tout à fait conscient. Ce qui est montré sur l'écran vise à faire imaginer au spectateur le hors-cadre. En d'autres termes, nous avons affaire à une métonymie visuelle fondée sur une métaphore. L'amour, métaphore usée mais réactivée, l'amour comme feu. Deuxième petit point que j'intitule « Descendre de la lettre à celle du corps des amants ». Cette scène des lettres brûlées par Catherine est de surcroît surdéterminée puisque le feu n'est pas seulement la métaphore du désir mais aussi le signe annonciateur du rapport entre la passion amoureuse et la mort, puisque la fin du film montre, cette fois plein cadre, les flammes d'un crématoire qui brûle le corps des deux amants. Alors c'est très frappant parce que c'est une scène qui est montrée presque comme un documentaire.
Ils prenaient ensemble un plaisir total à des riens.
Donc les deux amants sont...
Dès le début de leur amitié,
Catherine et Jim se sont suicidés. Et Ils sont pas enterrés, comme par hasard, ils sont brûlés dans un crématorium. Là encore, rien n'est dû au hasard. Et c'est filmé comme un documentaire, avec une précision très froide, très dure. Puisqu'il y a sa femme et son meilleur ami qui vont être brûlés. Donc évidemment, moi j'ai la première scène des lettres d'amour brûlées qui viennent faire écho à ce que je vois là. Donc à mon avis, les cendres des lettres brûlées sont reprises avec une énorme variation dans cette scène terminale, où le corps est réduit en cendres. D'accord ? Jules observe ce qui reste de sa femme et de son ami, un tas de cendres. Mais contrairement aux cendres des lettres brûlées par Catherine, balayées par Jim pour être mis à la poubelle, celles des cadavres sont pieusement recueillies dans une urne. Par un usage particulier de la répétition et de la variation d'une articulation, celle de la lettre et du feu, l'aspect mortifère de la passion est déployé par l'apparition de la lettre par laquelle tout arrive, puisque les retrouvailles fatales entre Catherine et Jim ont justement été provoquées par une lettre d'invitation à reprendre la relation. Point 3. L'écriture de la lettre comme sublimation de la mort. Dans un tout autre contexte, une autre scène montre Jules au front et permet d'analyser un autre aspect ambivalent de la lettre. Elle est alors présentée à la fois comme sublimation de la souffrance provoquée par l'absence de Catherine, mais aussi comme levée de l'interdit lié à la pudeur. La séquence commence par un cadre large, plan général, qui montre une fenêtre éventrée par laquelle s'engouffre un soldat allemand pénétrant dans une pièce dévastée. Un travelling arrière panoramique nous fait découvrir la pièce dans laquelle repose un soldat blessé ou mort, puis nous apercevons enfin Jules écrivant sur une table située dans un coin. La lettre qu'il rédige commence par évoquer la dureté des combats, puis devient de plus en plus érotique. Mais là encore, la présence de la mort produit indirectement une amplification du désir. En effet, celui qui écrit peut être tué d'un moment à l'autre. Il écrit son désir de façon directe, car le temps est compté. Par l'écriture, il réalise en partie, de façon fantasmatique, une partie de son désir. Puisqu'il écrit, je cite, « Mon amour, je pense à toi sans cesse, et non à ton âme, car je n'y crois plus, mais à ton corps, tes cuisses, tes hanches. » Fin de citation. Après-guerre, Jim fait aussi le récit d'une situation comparable en évoquant un soldat qui, ayant rencontré une femme dans un train lors d'une permission, commence une correspondance avec elle, de plus en plus intime, et accomplit, selon ses propres termes, un dépucelage par correspondance. Dans notre extrait, Jules, en écrivant, mais aussi en énonçant, en voix off, mais voix mentale, hein, on voit le visage, la bouche est fermée, et le personnage dit dans sa tête les phrases. Jules, en écrivant, mais aussi en énonçant des mots érotiques en allemand, finit par oublier que des soldats en plein combat entrent et sortent de la pièce où ils rédigent. C'est ça le paradoxe. L'écriture sublime donc dans cette scène la guerre et la mort, même si la lettre a de fortes chances de ne pas arriver à sa destinatrice. Jules dit ceci, « Comme je n'ai plus d'enveloppe, je ne sais pas comment te faire parvenir cette lettre. Je vais être envoyé sur le front russe. » Fin de citation. Encore un des paradoxes intéressants du motif de la lettre chez Truffaut, qui incite à se demander pourquoi on écrit si on pense que la lettre peut se perdre ou rester, selon une expression qui fait écho à notre propos, lettre morte. Chez Truffaut, donc, la notion de destinataire devient problématique puisqu'il ne sait pas si la lettre va arriver, comme nous allons le voir dans un autre extrait. L'écriture sublime la mort, mais lui reste intimement liée. L'écriture ne dépasse pas la mort, elle reste dès l'origine d'essence testamentaire. Blanchot puis Derrida ou Barthes ont beaucoup publié sur cette problématique complexe et paradoxale, je vous renvoie à leur essai. Dès que j'écris, je laisse une trace qui me succédera, mais dont j'ignore qui sera le destinataire. L'écriture, qu'elle soit celle de la lettre ou du récit, est une façon de déjouer la mort, de s'adresser à la postérité. L'homme qui aimait les femmes en témoigne en sa façon, j'y reviendrai peut-être à la fin de mon exposé. 1.4. Temporalité postale, asynchronie du désir et énonciation. Donc je reprends l'exergue qu'on a entendu au tout début du film. C'est en voix off Jeanne Moreau qui dit ceci. « Tu m'as dit « je t'aime », je t'ai dit « attends ». J'allais dire « prends-moi », tu m'as dit « va-t'en ». Hein ». Donc il y a ce que j'appelle une asynchronie du désir entre l'homme et la femme dans ce film-là et peut-être en général. Dans les lettres qui sont échangées entre Catherine et Jim, la problématique du temps apparaît essentielle. Plus précisément, deux temporalités distinctes du désir, celle de Catherine et celle de Jim, altèrent la relation amoureuse dès son origine. Les lettres mettent en scène cette différence de la temporalité du désir entre un homme et une femme en l'amplifiant, puisque les transports postaux, au début du siècle, imposaient une lenteur dont l'acheminement du courrier entre l'Allemagne et la France, puisque Catherine vit en Allemagne. Ce qui produit, selon la voix off du narrateur, je cite, un dialogue de sourds. Le désir de Jules et celui de Catherine n'ont en effet pas le même rythme. Quand Catherine déclare avec joie qu'elle est enceinte de Jim, Jim lui répond qu'il ne croit pas pouvoir être le père, faisant ainsi allusion au second amant de Catherine, qui est nommé Albert. Catherine insiste cependant, certaine de son intuition. L'effet de cette seconde lettre persuade enfin Jim de sa paternité. Mais le temps nécessaire à l'acheminement de sa lettre, annonçant son départ vers l'Allemagne, Catherine a déjà changé d'humeur et elle décide de rompre. Une dernière lettre venant d'Allemagne, mais cette fois-ci écrite non pas par Catherine, mais par son mari, annonce que l'enfant de Jim est mort avant terme. Hein ? Là encore, celui qui écrit, ce n'est pas une personne simple, c'est deux personnes, d'une certaine façon, puisque c'est le mari de Catherine. C'est Catherine qui devrait écrire, mais c'est son mari qui écrit, pour parler d'un problème qui, à la limite, ne le concerne pas directement. Puisque l'enfant était issu du couple illégitime entre sa femme et Jim. Truffaut problématise ainsi la notion apparemment évidente de la signature et donc du sujet d'énonciation des phrases prononcées ou écrites. Le sujet d'énonciation de la lettre est double, car la personne qui en est l'auteur n'est pas celle qui tient la plume. Hein ? La raison déclarée réside dans le fait que Catherine a des problèmes aux yeux, hein, tout comme, notons-le, Muriel dans les deux Anglaises. Jules avait déjà demandé à Jim d'écrire en grosses lettres, grosse écriture, selon les termes du français un peu fautif de Jules l'Allemand. Et pendant toute la dernière partie du film, on voit Catherine qui porte des lunettes un peu foncées. Symétriquement, le destinataire des lettres de Jim est aussi double, puisque c'est Jules qui les lit à sa femme, celle-ci portant désormais des lunettes sombres, comme je l'ai dit. La scène d'écriture des lettres de Jim est aussi singulière, puisque Truffaut tient à montrer Jim, malade, couché au lit, demandant à sa propre compagne, Gilberte, compliqué, du papier à lettres afin de répondre immédiatement à la lettre de Catherine trouvée sous la porte qu'elle vient de lui apporter, telle une factrice. Le spectateur voit Jim rédiger en gros plan les phrases qu'on entend off, mais en interne, pourrait-on dire. Manière de montrer le travail de la main sur la page, tout comme dans l'histoire d'Adèle H, montre le parcours de la main d'un écrivain public quand il rédige puis lit en suivant du doigt le texte de la lettre en gros plan qu'une femme analphabète ne peut pas écrire et qui est destinée à prévenir la famille Hugo que Adèle H est très malade. Donc, conclusion sur Jules et Jim, les mots « aimer »,« amour » écrits dans les lettres dont le film déploie les différentes significations n'ont finalement pas de sens défini puisque toutes les relations amoureuses sont en effet expérimentées dans ce film et toutes sont marquées par l'impasse. Aventure sans lendemain avec des femmes que Jules et Jim rencontrent dans les cafés, échec d'un mariage après 10 ans de mariage, échec du couple formé par Catherine et Jules, échec de Catherine changeant d'amant malgré son mari et Jim, Échec de la relation aussi entre Jim et Gilberte, qui acceptent les infidélités de Jim, mais bien sûr avec des effets collatéraux, peut-on dire. Mais toutes ces combinaisons aboutissent à un même sentiment d'échec. Le mot amour s'avère, en ses différentes figurations, un leurre, ou du moins ce sentiment engendré par le besoin de croire. Ou du moins, ce sentiment engendré par le besoin de croire, tout comme la religion, ne peut satisfaire le sujet. Je fais la comparaison avec la religion parce que dans la relation amoureuse, il y a la dimension de la promesse, de la croyance. Et il se trouve aussi que dans Adèle H., Adèle dit « j'ai la religion de l'amour », transformer le rapport amoureux en une sorte de religion. Mais où il y a de la croyance qui est irrationnel, évidemment. Le besoin de croire ne peut satisfaire le sujet qui, pour un temps éphémère, s'y adonne ou s'y soumet. Le pessimisme du film transforme la conception traditionnelle de l'idée d'amour en équivalent de rien. D'où la métaphore triviale du pot de chambre et celui plus poétique de la cendre. La cendre, voilà ce qui reste de l'amour et des deux amants qui n'ont pu trouver la manière de vivre ensemble de façon pérenne. La jalousie, l'amour propre, la rivalité, l'intermittence du désir, son asynchronie ayant engendré la destruction de tout lien. La lettre est toujours lue afin d'impulser un mouvement et d'éviter de simplement faire un plan sur un texte, sur le texte de la lettre. Mais la mise en scène de Truffaut s'efforce de varier la diction de la lettre. Il a problématisé les divers éléments constitutifs de toute correspondance. Je l'ai indiqué, le signataire, le facteur, le destinataire, le sujet d'écriture. La séquence où Catherine ne lit pas simplement sa lettre, mais la profère, montre son visage en surimpression, c'est ce qu'avait montré Violaine, sur le paysage en travelling de gauche à droite pour arriver à son chalet. Non, c'est une autre surimpression. 10 ans plus tard, on retrouvera de façon plus spectaculaire ces proférations totalement contraires au réalisme de L'aide dans les deux Anglaises, qui est un film réaliste en quelque sorte. Donc, qui a un côté complètement théâtral, presque hystérique, de la profération de la lettre d'amour. Je vais vous montrer un petit extrait de...
Firstly, with mother. Try to avoid discussions and arguments. And show her more affection. Secondly,
donc je vous montre ça parce que c'est une façon, à mes yeux, de diviser le sujet. C'est-à-dire le sujet est devant un miroir, donc une personne devient deux personnes. Et elle s'adresse, là c'est un journal, mais des fois quand elle écrit des lettres, elle se retrouve comme par hasard devant un miroir. Donc on se demande... qui est le destinataire, où le destinataire est dédoublé. Hein. C'est soit son journal, soit son amant, et c'est aussi à elle-même qu'elle écrit. D'accord. Donc dès qu'il y a un miroir chez Truffaut ou chez d'autres, dans une scène d'écriture, il faut l'interpréter comme un questionnement sur qui écrit et à qui on écrit. D'accord.
With my sister, I won't be jealous.
Chez Adèle H, il y a ça aussi.
I won't make him think I am better than I am. Lastly, I mustn't tire my eyes.
Donc le journal et la lettre, il y a des analogies, d'autant plus que elle envoie son journal à son amant. Hein? Donc la différence générique.
Partie de mon corps, mais surtout, me persuada que c'était notre secret et qu'il ne fallait pas en parler. Quand Clarisse s'en alla, je continuais parfois seule en regrettant son absence.
Donc avant, son amant reçoit un journal intime et le contenu du journal intime est visualisé par une diction qui n'est pas naturelle, qui est théâtralisée et par un jeu de cadrage, de zoom, l'effet affectif sur le spectateur est amplifié parce que on va finir cette séquence avec un gros plan sur les yeux, quoi. Hein.
Je ne savais pas à quoi servait cette partie de moi. Je savais seulement qu'elle était privée, ne devait être vue par personne et que je ne devais en parler à personne. L'habitude me laissait tranquille tout un temps, puis revenait. Je succombais alors, parfois avec rage, plusieurs fois de suite. Vers mes 17 ans...
Donc comme elle regarde face caméra, on est regardé par, par le personnage. Donc on est plus affecté par ce qu'elle nous raconte. Donc brièvement, quelques remarques sur un autre film qui s'appelle « La peau douce ». Donc très rapidement, Lachenay est un critique littéraire d'une cinquantaine d'années, assez bourgeois dans sa façon de vivre. Il se rend à Porto pour une conférence sur Balzac. Ce n'est pas un séducteur, mais son hôtel est le même que celui de l'équipage de l'avion. Il rencontre une hôtesse de l'air et a une aventure avec elle qu'il croit sans lendemain. Mais lors du voyage retour, elle lui écrit son numéro sur une boîte d'allumettes, hein, toujours la flamme, on pourrait dire. Et il se revoit et cette rencontre à Paris déclenche une véritable passion chez lui. Une dispute avec sa femme donne à Lachenay le prétexte de fuir le domicile conjugal emporté par un désir irrépressible d'aller à Orly rencontrer sa maîtresse malgré la faible possibilité de la croiser. La scène de ce départ précipité est en partie la reprise de celle du début du film où un ami le conduit en urgence à cet aéroport afin de prendre in extremis son avion. Le montage est plus lent. Le désir de Lachenay s'exprime dans une longue scène muette encore par son regard angoissé qui cherche vainement la femme follement aimée. Cet homme timide, s'il ne peut dire son amour en présence de la femme aimée, peut cependant l'écrire en son absence sur un formulaire télégraphique qu'il trouve à la poste de l'aéroport. Le télégramme, cette forme de lettre, a deux caractéristiques. Elle impose une concision extrême à qui écrit et elle est supposée requérir moins de temps pour arriver à son destinataire. La mise en scène de Truffaut se décompose en simplifiant un peu de quatre moments afin de transformer une simple scène d'écriture en un moment surdéterminé et fortement symbolique. En un premier temps, le formulaire du télégramme remplit tout l'écran, on va voir deux photogrammes. Le spectateur voit le stylo-plume et les doigts de Lachenay qui occupent un tiers du cadrage afin de montrer la jeunesse de l'inscription de l'amour en gros plan. Truffaut peut ainsi nous donner à lire ce texte dont le signataire est pourtant timide lorsqu'il n'écrit pas. Le texte, c'est ceci. « Nicole, stop. Depuis que je vous connais, je suis un autre homme et cet homme ne peut envisager de vivre sans toi. » Stop, je vous aime, Pierre. Lachenay passe donc du vouvoiement au tutoiement, puis revient au vous. Cette oscillation dans la désignation de Nicole est la marque d'une division du sujet, puisqu'il parle de lui comme d'un autre. Je suis un autre homme. Autant dire d'un personnage de roman. Je suis un autre homme et cet homme, hein, il parle de lui comme d'une autre personne. Le second moment de cette scène d'écriture consiste en la lecture à haute voix du texte que nous avons déjà lu dans le silence de sa rédaction. En voix off-in, Lachenay relit sa déclaration d'amour, mais de façon neutre, un peu comme il lirait un texte d'une revue littéraire, ajoutant, tel un correcteur ou un rédacteur en chef, deux signes typographiques, un tiré avant Pierre, puis un point après. La passion du texte n'est plus audible quand il énonce le texte de son télégramme. Nicole, en tant qu'objet d'amour, est indirectement assimilée comme relevant non pas de la réalité, mais de l'imaginaire. Manière pour Truffaut d'indiquer obliquement que l'objet de l'amour fou de Lachenay est de l'ordre du fantasme, voire de la fiction, ce qui est après coup, va se révéler exact à la fin du film, puisque la jeune femme va l'abandonner. Après cette correction du texte, et j'ai bientôt fini, Lachenay semble un peu perdu face à une telle lettre dont on devine qu'il ne se reconnaît pas en tant que signataire. Alors qu'il constate sa division et l'altérité qui l'habite, Il entend prononcer le prénom de sa maîtresse par une autre hôtesse, puis l'aperçoit. Un chant contre chant établit le rapport visuel entre les deux amants, suivi d'un plan montrant les deux hôtesses. C'est alors qu'un insert très rapide, d'une seconde, cadre en très gros plan, une seule phrase de la lettre « Je vous aime ». Donc la scène d'écriture est mise en valeur, hein, en quelque sorte. Après, il y a un chant contre chant, il s'aperçoit qu'elle est là. Il y a un très très gros plan où je vous aime et signalé. Mais le paradoxe, c'est qu'il voit l'infirmière, pas l'infirmière, l'hôtesse, j'ai d'ailleurs failli le dire tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. il est malade d'amour. Et donc, il est content de la voir, il se balade avec elle, mais dès qu'il la voit, le télégramme, il le cache dans sa poche. Et il y a un gros plan sur la main qui est dans la poche, qui tient le message télégraphique. Il le chiffonne et il passe devant une poubelle et il met sa belle déclaration d'amour dans la poubelle. Donc, il y a quelque chose à relier aussi avec le film Jules et Jim, comment la lettre d'amour, soit on l'a finie dans un pot de chambre, soit elle finit à la poubelle. Donc là, je n'ai pas le temps de méditer là-dessus, mais il y a quelque chose à en tirer. Donc, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir dépassé mon temps limite.